Nous sommes en ligne avec Frédéric Ancel. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de géopolitique et de relations internationales à Sciences Po. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages qui font référence, notamment sur le Proche-Orient, mais pas uniquement. Et vous organisez les 8e rencontres géopolitiques de Trouville ce week-end, du 21 au 24 septembre. C'est au casino Barrière de Trouville-sur-Seine avec un thème merveilleux, puisqu'il s'agit des mers et des océans. Il y a beaucoup à dire en géostratégie ou en géopolitique. Il se trouve que vous êtes notre invité ce soir pour parler et de ces rencontres, et bien sûr de l'événement majeur que tout le monde présente déjà comme un événement historique. C'est, pour la première fois, le prince saoudien qui dit à la télévision américaine « Oui, j'envisage une normalisation avec les Israéliens ». D'abord, et ça c'est historique, mais enfin c'est vous le professeur, donc vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. J'ai peu de doute de votre réponse. Il se trouve cependant que mer et océan, ça concerne beaucoup les Israéliens aussi, pays frontalier, un pays méditerranéen évidemment. Vous êtes de quelle école, Frédéric Ancel? Pour vous, l'accord qui a été signé entre le Liban et Israël, il y a deux visions, il y a la vision libanaise et la vision israélienne. C'est un accord technique qui ne veut rien dire, comme on fait des échanges de prisonniers dans les guerres. Ça, c'est les Libanais qui le présentent comme ça. Et c'est un accord, lui aussi, qui a quelque chose d'historique, même s'il ne vient pas avec les fanfares, parce que c'est la première fois qu'Israéliens et Libanais signent un accord de reconnaissance de frontières. Pas un accord d'échange de prisonniers ou de cessez-le-feu, justement, mais de reconnaissance de leurs frontières. Et ça se passe tout ça dans l'eau, puisque, et donc dans la mer, puisque l'idée est de savoir qui peut utiliser, peut forer le gaz et qui ne peut pas et où. Pour vous, Israéliens et Libanais ont de facto signé un accord de reconnaissance de leurs frontières ou non? C'est technique et ça ne veut rien dire.
Alors, c'est technique, mais ça ne veut pas rien dire. c'est technique au sens où on n'est pas sur un accord politique. D'ailleurs, les Israéliens et les Libanais ne se sont pas rencontrés, ne se sont pas serrés la main, un peu façon 1948, les armistices de 48 au moment où on ne se serrait pas la main. Donc, ils sont passés par des tiers. Mais à la limite, c'est pas très grave. L'important, c'est que chacun dise bon, à partir de là et jusque là, jusqu'à cette limite,
c'est Israël.
Il y a un droit souverain à exploiter les ressources halieutiques, les ressources gazières, etc. Maintenant, ça dit quelque chose du Liban, avec d'ailleurs, si vous me permettez, Bernard, une petite précision, une semi-erreur de votre part. L'accord du 17 mai 83. Donc en pleine guerre du Liban, mais après le meurtre de Bichir Smaghel, l'accord du 17 mai 83, a priori,
correspondait
à une reconnaissance.
Oui, c'est ça,
par le Liban d'Israël. Alors évidemment, c'est pas un accord de paix en bonne et due forme, parce qu'institutionnellement, le Liban n'était pas dans des conditions. Voilà, c'est pour ça que je dis que il faut rappeler que ça a déjà existé. Maintenant, ça dit quelque chose de manière contemporaine du Liban, c'est qu'il est tenu par le Hezbollah. Alors vous allez me dire, c'est pas nouveau. Oui, simplement, il faut le répéter. Parce que le Hezbollah aujourd'hui est un mouvement, un groupe, un collectif tout à fait parasite du point de vue de l'État libanais. Et ce qui intéresse prioritairement les signataires pro-Hezbollah d'ailleurs, de l'accord, c'est évidemment de pouvoir récupérer des fonds provenant des ressources tirées de l'exploitation du gaz naturel, excusez-moi. Et donc, le Hezbollah est partie prenante, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la politique étrangère d'Israël. Et c'est dit une dernière chose, c'est que le Hezbollah, tout islamiste soit-il, s'est parfaitement compté ses sous. Et beaucoup d'ailleurs, sinon tous les fanatiques dans l'histoire, sont par ailleurs des gens qui sont volontiers mafieux et ou amateurs de gros sous. Voilà ce que ça dit cet accord, me semble-t-il.
Allez, on en vient au gros, je viens de dire le gros morceau de la journée. Donc, le numéro 1 saoudien donne une interview à Fox News. Il faut d'abord dire que c'est très rare, ce n'est pas son habitude. Et ben, vous savez quoi? On va l'écouter.
Well, there is approach from President Biden administration to get to that point. For us, the Palestinian issue is very important. We need to solve that part. And we have a good negotiation. It's continue till now. We got to see where it will go. We hope that it will reach a place that it will ease the life of the Palestinians and get Israel back as a player in the Middle East.
There were reports that you had suspended talks.
No, that's not true.
Not true. So you think, if you were to characterize it, are you close?
Every day we get closer.
Voilà, donc moi, ce qui me semble le plus important de ce que dit le souverain saoudien, c'est nous sommes chaque jour plus près d'un accord avec les Israéliens. Et quand on lui demandait, on a dit que vous avez arrêté de négocier, il dit pas du tout, c'est faux. C'est historique, non? Vous êtes d'accord avec moi? Ce que je veux dire, pour une fois, quand les journalistes disent historique, c'est pas abusé.
C'est pas abusé, c'est semi-historique. Vous savez pourquoi je dis que c'est semi-historique? Parce que Camp David 78, Arava 94, Mauritanie 99, accord d'Abraham, avec d'ailleurs l'accord nécessaire, mécaniquement, de Riyad à l'époque, avec le Maroc, Bahreïn, le Soudan et surtout les Émirats Arabes Unis. Écoutez, on en est déjà quand même à 7, hein, 7-8 pays. Alors là où je reconnais que c'est historique, c'est que nous avons affaire au pays arabe de très loin, le plus riche au monde, au pays musulman, le plus riche au monde, en tout cas par habitant, et en termes de PIB par habitant, et l'État qui correspond au cœur, au centre du sunnisme. Et le sunnisme, comme vous le savez, c'est 90% des musulmans dans le monde. De ce point de vue-là, oui, on a quelque chose d'historique. J'ajoute d'ailleurs que ce qui est historique, mais ça a échappé à beaucoup d'observateurs ces dernières heures et ces derniers jours, c'est le timing. Parce que de plus en plus près d'un accord, ça veut dire qu'on négocie et qu'il reste quelques points techniques. Mais attendez, ça signifie que Riyad s'apprête à reconnaître l'État d'Israël, donc l'État sioniste d'Israël, sans la moindre perspective d'une once d'un début de commencement de processus de paix, et alors qu'en Israël, à la tête du pays, est au pouvoir une coalition ultranationaliste. Ah bah écoutez, alors moi, je vais vous dire Bernard, moi ce que je trouve historique, c'est comme c'était déjà le cas à l'époque des accords d'Abraham, c'est que, et pardon, mais je le dis et je l'écris depuis de nombreuses années, ça signifie très clairement que le conflit israélo-palestinien est relégué au rang de simple contentieux. Je le dis depuis des années, c'est vrai pour les grandes chancelleries, c'est vrai pour des pays arabes modestes, mais si l'Arabie saoudite passe par pertes et profits, le sort en quelque sorte politique en tout cas, des Palestiniens y compris, de Jérusalem, c'est que vraiment, là, oui, on a franchi un cap dans la relégation, dans quelque chose de secondaire de la question.
Alors, d'après nos informations, nous, journalistes, pas les miennes, mais spécifiquement, c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que, justement, il reste plus qu'une chose qui bloque, en fait, un accord de normalisation avec les Saoudiens, entre Israël et les Saoudiens, c'est la question palestinienne. Et non seulement c'est les deux points que vous avez évoqués, c'est non seulement la question palestinienne, mais c'est aussi la présence de ministres de la droite, de ministres ultranationalistes au sein du gouvernement. C'est les deux points qui bloquent pour deux raisons. D'abord déjà du côté saoudien, mais la deuxième raison, c'est que justement ces ministres vont bloquer toute concession faite aux Palestiniens, et paradoxalement, ça bloque d'abord sur la question palestinienne. Et ça bloque paradoxalement du côté des Israéliens.
Disent que c'est petit à petit et que c'est plus qu'une question de jours ou d'éléments. Enfin, on s'en approche chaque jour. Malgré tout, ce roi sait parfaitement que la coalition, a priori, qui vient d'être formée en décembre dernier, elle est là, en principe, pour 3 ans et demi. Ben, attendez, ça signifie quoi? On s'en approche jour après jour. Ça signifie qu'il va attendre une prochaine coalition qui serait éventuellement de gauche, ce qui aujourd'hui arithmétiquement en Israël est pratiquement impossible, pour faire la paix. Je ne crois pas. Ce qui est historique, c'est qu'il se permet de dire ouvertement qu'il est en train de négocier et négocier quand même beaucoup. Et vous comprenez. Et on va s'appeler avec ce gouvernement. Sinon, on ne dirait pas ça. Sinon, il attendrait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ouais. Moi, c'est ça que je trouve. Donc, je vous rejoins. C'est quelque part historique, mais notamment sur la question du timing, peut-être plus que sur le fond.
Alors, le deuxième point, c'est la question du nucléaire. Alors, passé la stupéfaction de voir les Israéliens dire oui, ce pays arabe-là, donc en l'occurrence l'Arabie Saoudite, qui a été le cœur du wahhabisme, qui a financé le Hamas pendant des années, je ne sais pas combien de... Je crois que c'est 90% des terroristes du 11 septembre sont des Saoudiens. Enfin, bon, ce pays-là peut avoir une usine nucléaire, c'est pas grave, ça ne nous gêne pas, au contraire. Et là, on attend vos explications, Frédéric Ancel, parce que il faut qu'on comprenne, quoi. On va entendre un deuxième extrait.
Alors d'abord, un réacteur nucléaire, ça ne signifie pas une bombe atomique.
Bah oui.
C'est-à-dire que les Irakiens ont eu un réacteur et ils l'ont eu dès 75-76. Bon, et comme vous le savez, les Israéliens ont mis fin, effectivement, à cette aventure franco-irakienne en 82. Mais il faut beaucoup, beaucoup de temps, et non seulement du temps, mais des moyens. Alors pas des moyens financiers, c'est évidemment, rien des moyens financiers, mais des moyens technique extrêmement aboutie pour aller jusqu'à la possibilité de faire une bombe. Maintenant, une fois que vous avez la bombe, il faut pouvoir disposer de capacités de la projeter, autrement dit, des chasseurs-bombardiers stratégiques, ou alors des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ou alors des missiles. Ici, l'Arabie saoudite, pour l'instant, n'a strictement rien de tout ça. Donc, je pense qu'on est, encore très loin de ce qui pourrait représenter un danger pour Israël. Maintenant, le deuxième point, il est presque, enfin, il est politico-philosophique. À partir du moment où l'Arabie saoudite, comme l'Égypte en 78-79, décide de reconnaître Israël, de faire la paix avec Israël, voire même plus, on le voit avec les Émirats arabes, on a affaire à une quasi-alliance, en tout cas un vrai partenariat, y compris militaire. Pourquoi en avoir peur ? Vous voyez, c'est tout le problème. C'est-à-dire que les Israéliens ne peuvent pas dire à la fois « Bon, ça ne représente plus un danger, la preuve, regardez, ce sont devenus des partenaires, voire des alliés. » Et dans le même temps, il ne faut surtout pas qu'ils aient tel ou tel type d'arme. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas tenable comme position.
Un dernier mot, Frédéric Ancel, sur la prolifération nucléaire. On écoute ce que dit le roi d'Arabie saoudite.
With the rest of the world, so it's a useless effort to reach a nuclear weapon because you cannot use it. If you use it, you got to have a big fight with the rest of the world.
If they get one, will you?
If they get one, we have to get one.
Ouais, terrible. Ça, c'est terrible. S'ils ont une bombe, on parle de bombe. Vous avez raison, c'est pas pareil. Mais si les Iraniens ont la bombe, if they get one, we have to get one. On doit en avoir une. Et ça, c'est vraiment la terreur de tous les de tous les gens qui, comme vous, enseignent la géopolitique, c'est la prolifération nucléaire. S'ils ont une bombe, on va où ? On va où avec
ça ? Oui, alors c'est à la fois la prolifération et la dissuasion. La prolifération, c'est terrorisant, la dissuasion, c'est rassurant. Maintenant, je vous dis ça, mais je ne pense absolument pas, mais vous savez, on en a déjà parlé, je peux tout à fait me tromper, je ne suis pas prophète, mais je ne pense absolument pas que l'Iran aura jamais la bombe. Maintenant, l'Arabie saoudite, ce qui est intéressant, à travers ce que dit son souverain, et pas n'importe quel souverain, ça traduit, ça illustre le maintien du clivage chiite-sunnite. Hein. Beaucoup d'observateurs, là aussi très paresseusement, depuis la reprise des relations diplomatiques entre Téhéran et Riyad, disent de manière beaucoup trop rapide, ça y est, c'est le réchauffement, voire même une nouvelle alliance entre les musulmans de manière générale. Mais non, c'est complètement idiot, c'est un contresens. C'est pas parce que vous quittez un État technique de guerre, ce qui était le cas entre Riyad et Téhéran pendant des années, bon, et que simplement vous revenez à la base des relations diplomatiques qui existent entre la quasi-totalité des pays dans le monde entre eux et une alliance. En réalité, le clivage, il reste, il demeure. Et là, je reviens à l'expression qu'on voyait tout à l'heure, vous et moi, le souverain saoudien en personne, sur une chaîne américaine, qui n'est pas n'importe laquelle, c'est Fox News, qui vous dit ça aujourd'hui. Une phrase avant ou une phrase après, je ne sais plus, avoir dit l'entrée des relations diplomatiques avec Israël, c'est plus qu'une question de temps. Écoutez, c'est vraiment la traduction du maintien du clivage, très dur, avec l'Iran.
Frédéric Ancel, merci pour ces quelques paroles. Je rappelle les 8e rencontres géopolitiques de Trouville-sur-Mer qui sont ce week-end, du 21 au 24 septembre au Casino Barrière de Trouville-sur-Seine. Merci d'avoir été l'invité de Radio Chablis.
Je précise que l'entrée est totalement libre, il n'y a aucun portique et que nous arrêtons nos travaux dimanche midi.
Parfait. Merci Frédéric Ancel.
Merci à vous.
Donc voilà, dimanche midi, c'est terminé. Mais de toute façon, par contre, c'est en courant. Cet après-midi, c'était les lycéens qui venaient discuter, réfléchir et surtout apprendre sur la géopolitique. Merci à vous, Frédéric Ancel. Bonsoir.